bienvenue à tous. Les campagnes des élections législatives vont bon train. Élections prévues le 11 et 18 juin prochain. Aujourd'hui, nous recevons Jean-Louis Amis, candidat de lutte ouvrière aux législatives du 11 et 18 juin. Bonjour.
Bonjour.
Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, nous aimerions vous connaître un peu plus. Ce serait bien de nous évoquer votre parcours en quelques mots.
Alors écoutez, de profession, je suis postier. Je suis militant à lutte ouvrière depuis de nombreuses années déjà, je dirais au moins depuis les années 90. Et je me présente dans ces élections législatives pour faire entendre le camp des travailleurs, comme l'a fait précédemment Nathalie Arthaud dans les présidentielles.
Alors avant d'entamer justement cette interview, je rappelle quand même le rôle d'un député, celui qui vous représentera à l'Assemblée nationale. Il vote les lois, dépose des propositions de texte, il amende les lois en discussion. En tout cas, c'est l'élu qui portera vos propositions politiques pour le développement économique du territoire à l'Assemblée nationale. Jean-Louis Amis, comment abordez-vous ces élections législatives ?
Bah écoutez, déjà, il y a quand même un contexte particulier avec l'arrivée d'un nouveau gouvernement qui dit casser les codes politiques habituels. Bon, avant, on avait une alternance gauche-droite. Là, on a l'impression qu'on va avoir un gouvernement mélangé gauche et droite. Mais enfin, tout ce méli-mélo, nous, au niveau du camp du travail, ça ne nous concerne pas vraiment parce que ce qu'on sait, c'est qu'on va avoir à se défendre, à mener des luttes sociales, parce que bon, Macron ne s'en cache même pas. Il veut mener une politique au service du grand patronat, il veut faire une loi El Khomri Empire, s'en prendre aux retraites, faciliter encore plus les licenciements, le blocage des salaires, la flexibilité du temps de travail, tout ça. Eh bien nous, dans cette campagne, justement, on veut faire entendre les exigences du monde du travail. Hein. Nous, on veut défendre, par exemple, la nécessité d'interdire les licenciements et le maintien des emplois publics sans baisse de dotation de l'État.
Vous, Jean-Louis Amis, vous êtes candidat aujourd'hui. Votre objectif est de siéger à l'Assemblée nationale ou bien toujours de véhiculer des idées pour lutter contre les grands, comme vous le dites ?
Bon, vous savez, on est une petite organisation politique. Si on était à la veille de siéger à l'Assemblée nationale, d'abord, nos scores auraient été un peu plus importants au présidentiel. Et ça voudrait dire qu'on serait vraiment dans une période révolutionnaire. Parce que nous, on est un parti communiste révolutionnaire. Lutte ouvrière se revendique des idées communistes révolutionnaires. Donc si vraiment on avait la possibilité au moment T là, d'accéder à l'Assemblée nationale, ça voudrait dire qu'il y aurait une situation révolutionnaire dans le pays. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Pour l'instant, c'est un gouvernement qui va mener une politique, au contraire, contre le monde du travail et qui va devoir apprendre à se défendre au mieux en utilisant ses forces collectives. Et nous, c'est ce qu'on veut défendre dans ces élections comme perspective.
Donc, si je comprends bien, aujourd'hui, les travailleurs n'ont pas de perspective, selon vous, avec le nouveau gouvernement ?
Bon bah écoutez, comme je vous le disais, Macron ne s'en est pas passé, ne s'en est pas caché. Ils veulent libéraliser encore plus les règles du travail. Ils veulent même casser le code du travail. Alors bon, vous vous rendez compte, estimez aujourd'hui que si les patrons, y compris des TPE, n'auraient pas les moyens d'embaucher suffisamment, ce serait parce que les règles de protection minimum du code du travail serait encore trop importante aujourd'hui, ça équivaut à quoi ? Ça équivaut à donner carte blanche au monde du patronat pour qu'il puisse faire encore plus ce qu'il veut demain. Et on est déjà dans une situation où on voit des boîtes fermées tous les jours à droite et à gauche. On voit des familles ouvrières, des familles de petits producteurs qui sont mis sur la paille tous les jours. Donc là, je pense qu'on vit pas dans le même monde, si vous voulez. On vit pas dans la même réalité sociale. Et nous, on a bien autre chose à défendre, y compris dans le cadre de ces élections.
Dans le cadre, justement, de la réforme du Code du travail, le gouvernement parle d'apporter une souplesse aux TPE.
Vous comprenez, quand on nous explique que les TPE auraient du mal à embaucher par le fait que les règles du Code du travail seraient une entrave, que le minimum de salaire existant serait une entrave aussi pour embaucher, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour pouvoir embaucher, il faut qu'il n'y ait plus aucune protection, plus aucune règle. Bon, je pense que c'est un leurre de croire ça, parce que les entreprises n'embaucheront pas plus pour autant, et même les TPE, lorsqu'elles ont du mal à embaucher, elles le savent. C'est lié quand même au marché, c'est lié à la dictature du marché, c'est lié aux donneurs d'ordre, c'est lié au fait que lorsqu'on est sous-traitant de plus grands groupes industriels, eh bien les plus grands groupes industriels imposent leurs lois aux plus petites entreprises. La réalité, elle est là.
Un point sur la moralisation de la vie politique, la transparence, le non-cumul de mandats, quelle est votre position?
Ouais, alors bon. On a l'impression qu'aujourd'hui, il faudrait faire le grand ménage des écuries. Écoutez, on se sent vraiment loin de tout ça. Parce que tous les scandales qu'il y a eu dernièrement, alors vous faites sans doute allusion, y compris au scandale Fillon qui avait éclaté, etc. Tout le monde le savait plus ou moins confusément, qu'à partir du moment où vous avez un personnel politique qui travaille main dans la main avec le MEDEF, encore une fois, c'est ce que je disais au départ. Eh bien, ces accointances-là, eh bien, ça donne des habitudes de fréquentation, des habitudes d'un certain niveau de vie, des habitudes éventuellement de pot de vin, etc. Aujourd'hui, ils nous disent les uns et les autres qu'enfin, ils vont vouloir moraliser ça. Eh bien, on les jugera sur pièce.
Vous le savez, la culture bretonne est un thème important. La population souhaite conserver et mettre en avant son identité, son patrimoine culturel. Quelles propositions souhaitez-vous mettre en avant pour défendre les langues régionales notamment?
Alors, écoutez, par rapport à ça. Je dirais que, bon, avant de vous donner ma position politique, moi j'y suis particulièrement sensible, puisque mes grands-parents, enfin plus précisément mon grand-père maternel, était bilingue, était bretonnant, et c'était sa langue maternelle. Et pour cause, il était né dans un coin donc du Nord Finistère, dans le Léon. Et lorsqu'on naissait dans une ferme dans ces régions-là, à l'époque, la première langue, c'était la langue bretonne. Bon, pour ma part, par rapport à mon grand-père maternel, je dirais que moi je suis comme une sorte de migrant de l'époque. Je suis né dans le Finistère à Morlaix, mais je n'y ai pas vécu. Mes parents ont déménagé très vite en dehors de la Bretagne. Moi-même, j'ai dû travailler en Loire-Atlantique, en Morbihan et puis en région parisienne. Ce qui fait que comment dire, la réalité de la langue bretonne, je dirais pas que j'en suis loin, j'y suis sensible. C'est quelque chose qui fait partie de mon passé familial. Pour ce qui est de la possibilité de pouvoir avoir accès à un enseignement de cette langue comme d'une autre, je suis pour. Après, au niveau des conditions, faut en discuter, au niveau de la signification politique de ce que c'est que l'apprentissage d'une langue aussi.
Sur le volet du chômage, malgré le taux de chômage le plus bas du Morbihan, là je parle des chiffres de 2016, le pays de Ploërmel peine à attirer aussi des compétences. Et les plus de 50 ans souffrent encore. Les problèmes liés à la mobilité n'aident pas non plus. Que souhaitez-vous proposer comme politique de l'emploi durant votre mandature si vous êtes élu?
Si on prend la réalité du monde du travail de la circonscription, hein, pour revenir localement, ce dont on s'aperçoit, si vous voulez, c'est que dans la circonscription comme ailleurs, les attaques du gouvernement et du patronat que je décrivais tout à l'heure, elles seront nationales. Hein. On n'aura pas de frontières qui nous protégeront autour de la circonscription. Et plus particulièrement dans la région, on a encore en mémoire les licenciements des entreprises Doue et Gade par centaines. Eh bien, nous, on estime que ici comme ailleurs, il faudrait que les salariés aient le droit de savoir où va l'argent des bénéfices, où va l'argent des aides publiques que ces entreprises avaient touchées par millions, et comment il est utilisé. Et au même titre que les salariés, les producteurs du monde agricole, hein, qui font partie des travailleurs pour nous, devraient avoir eux aussi le droit de contrôler les comptes des géants de la grande distribution. On verrait alors que les licenciements des salariés ou la mise sur la paille des producteurs ne se justifient pas.
On va y venir justement sur la thématique de l'agriculture. Le gouvernement de François Hollande a mis en place un plan de formation justement pour aider à endiguer le problème du chômage. C'est une mesure que vous souhaitez renforcer sur le territoire ou bien vous pensez qu'il y a d'autres choses à faire pour lutter contre le chômage?
Écoutez, dès lors qu'il y a des plans de formation qui se développent, nous, on ne va pas aller contre ça. Bien évidemment que ce qui est de l'ordre de la formation, ce qui est de l'ordre de l'enseignement, il faut des moyens. Et je dirais que ça démarre même dès la maternelle en secteur scolaire. Nous, on défend y compris le fait qu'on puisse travailler à 15, 20 par classe maximum pour qu'en termes de formation, pour ce qui est des premières acquisitions, qu'il n'y ait aucun problème pour les enfants, y compris quelles que soient leurs origines sociales. Après, pour revenir sur la formation professionnelle de Hollande que vous décriviez, comprenez, aujourd'hui, on peut avoir la meilleure formation du monde. On peut même avoir des diplômes d'ingénieur et se retrouver licencié au chômage. Je pense qu'aujourd'hui, le problème de l'emploi, il dépasse celui de la formation.
Qu'est-ce que vous comptez mettre en place dans le cadre de l'économie sociale et solidaire, Jean-Louis Amis ?
Écoutez, tout ce qui est contrat d'aide, contrat d'avenir, contrat, comment dirais-je, de professionnalisation. Moi, je constate quand même une chose, c'est que sous prétexte de formation, sous prétexte d'aide à l'emploi, il y a quand même un vice caché derrière tout ça. Je ne veux pas dénoncer tout le monde, mais en tout cas dans les plus grandes entreprises, et la mienne en fait partie, mon entreprise par exemple, qui est une plateforme industrielle de tri du courrier, profite des aides du gouvernement pour utiliser des apprentis sous forme de contrats d'apprentissage, de professionnalisation. Alors, ces grosses entreprises-là, elles touchent des aides de l'État. Et on se retrouve avec des jeunes ou des moins jeunes avec le statut d'apprenti qui finalement travaillent comme les autres salariés et parmi les plus jeunes pendant 8 mois avec un salaire dit de formation de 800 euros par mois. Moi, je pense qu'il y a arnaque. Là, les patrons, ils se sont arrangés au niveau des lois pour toucher les aides de l'État sous prétexte de la formation. Et derrière, en plus, il n'y a même pas la garantie qu'une fois la formation terminée, les contrats d'apprentissage se transforment en CDI. Donc on dit là, il faut vraiment qu'il y ait un contrôle sur l'utilisation de cet argent public et de la formation.
Mais ça leur permet aussi de sortir du chômage de longue durée.
Bah, c'est ce que je vous disais, pas systématiquement, parce que quelquefois, quelques mois de formation, et puis on s'y retrouve de nouveau au chômage, parce qu'il y a bien des patrons qui utilisent ce système-là pour prendre à répétition des apprentis sans les embaucher.
Alors Internet, maintenant Jean-Louis Amis, je rappelle quand même que vous êtes le candidat investi par le parti Lutte Ouvrière dans notre circonscription. En termes d'accès au haut débit, notre territoire est toujours classé en seconde ligne. Comment améliorer la situation et quelle est-vous portée comme proposition ?
Nous déjà, on est pour la généralisation du numérique. Et effectivement, il est fort possible que les plus grands groupes qui obtiennent les contrats d'installation de la fibre, par exemple, à l'échelle d'un département, ne trouvent pas obligatoirement aussi intéressant que ça financièrement de s'installer et de construire de la même façon sur tous les territoires. Alors ça, on peut le dénoncer parce que nous, on est pour l'installation des réseaux de communication, quel que soit l'endroit où on se trouve en France, de façon à ce que tout le monde y ait accès. Et puis s'il faut passer au-dessus des intérêts des grands groupes tels Eiffage et SFR, eh bien passons par des constitutions de services publics de construction de la communication. Nous, on le revendique pour la communication, on le revendique pour le logement, pour la construction des bâtiments. On pense que ce serait tout à fait nécessaire pour que toute la population ait accès au même droit, qu'on puisse en passer par la création de réseaux publics de construction. Après tout, on pourrait bien s'en passer des intérêts financiers de Vinci, Eiffage, SFR et autres. Pour ce qui est de l'accès au numérique, pour faire le lien avec le culturel, nous, ce qu'on défend, c'est y compris en particulier pour des familles populaires qui n'ont pas toutes accès, parce que ça coûte cher l'accès à Internet, eh bien, le fait de pouvoir répandre dans les bibliothèques municipales, dans les centres culturels, dans les salles municipales, un accès libre au réseau d'information via Internet pour que ce soit ouvert à tous, et en particulier aux familles populaires qui n'ont pas toutes la possibilité d'avoir l'accès à Internet chez elles.
Sur le volet de la santé, Jean-Louis Amis, comment garantir l'accès aux soins pour tous dans le territoire et les médecins généralistes ne s'installent plus malgré les créations de maisons de santé sur le territoire et la population est de plus en plus vieillissante sur les zones rurales.
Ouais, je vais faire quand même un point général avant de parler du désert médical. Déjà, pour nous, l'accès aux soins pour tous, ça passe justement à ce qu'on ait tous un emploi pour pouvoir cotiser. Ça passe aussi par la défense des comptes de la sécurité sociale, parce que ce qu'on constate, c'est que les plus grands groupes industriels du pays, ceux dont on évoquait tout à l'heure, eux, pour l'instant, de plus en plus, leurs cotisations sociales, elles diminuent, voire quelquefois, sur les plus bas salaires, les plus grands groupes sont exonérés de leurs cotisations sociales. Donc, s'il y a des baisses de moyens de la sécurité sociale, s'il y a des baisses de remboursement d'un certain nombre de médicaments, comme c'est le cas ces dernières années, pénurie, ben voilà, les conséquences, c'est que ça oblige y compris des salariés à prendre des mutuelles plus ou moins chères que les gens ont plus ou moins les moyens de prendre. Et donc, nous, on veut revenir à, au moins au niveau des cotisations sociales qui étaient pratiquées il y a 10 ou 20 ans par les fameuses grosses entreprises. Les problèmes de compte de la sécurité sociale sont aussi dus au pouvoir énorme des grands groupes pharmaceutiques. Hein, vous pensez bien qu'un groupe comme Sanofi ou Servier, la population n'a pas le droit ni les moyens de pouvoir contrôler les prix qu'ils pratiquent. Et nous, on serait pour un contrôle public des prix pratiqués par les grands groupes pharmaceutiques. Je viens sur le désert médical et je sais qu'on est concerné dans les circonscriptions comme dans plein d'endroits en France. Je crois même me souvenir qu'à Serran, il y a eu des difficultés il y a quelques mois pour recruter ici un ou deux médecins supplémentaires. Bon, première chose, nous on pense qu'il faut quand même supprimer le numerus clausus. C'est un système qui avait été mis en place par des médecins libéraux il y a bien longtemps, qui craignaient l'arrivée de nombreux jeunes médecins concurrents. Nous, on dit qu'il n'y a pas de concurrence à avoir dans ce domaine-là. Il y a des calculs à faire au niveau des besoins de la population, au niveau des besoins d'un territoire. Et on doit pouvoir libérer le recrutement en fin d'études des médecins et ne pas limiter leur arrivée sur le marché. Et je citais l'exemple de Serran. Bah, s'il faut des aides à l'installation pour les jeunes médecins, pourquoi pas, y compris au niveau des infrastructures, etc. En tout cas, il faudrait définir un certain nombre de priorités géographiques pour l'installation des jeunes médecins partout sur les territoires, oui.
Agriculture maintenant, monsieur Amis, beaucoup de producteurs travaillent dans la difficulté, en dessous du prix de revient, avec un salaire, comme je viens de le dire, hein, en dessous du prix de revient. Les éleveurs laitiers surtout, puisqu'ils sont nombreux hein, sur notre territoire, qu'allez-vous proposer pour améliorer leur situation ?
Alors écoutez, déjà quand même, il y a une analyse à faire, parce que comme toutes les autres activités de la société, l'agriculture elle est complètement intégrée dans l'économie capitaliste. Hein. Que ce soit l'organisation de sa production, le cours des prix, tout est dicté quand même par la loi du marché, et qui plus est un marché international, hein, mondial aujourd'hui. Alors en d'autres termes, tout ça c'est organisé non pas pour produire des matières premières, pour produire de la nourriture en fonction des besoins des populations, mais pour faire du profit. Et dans ce système-là, bien évidemment, hein, que cette loi, eh bien, elle s'impose aux plus petits, et de plus en plus nombreux sont acculés à faire faillite, y compris ici dans la région. On en arrive alors du coup à une situation absurde où on a d'un côté la production de biens alimentaires, nécessaire à la survie de tout le monde, qui est de plus en plus soumise à la spéculation des marchés financiers. Et à côté de ça, on a des milliers de paysans et dans le monde entier qui se retrouvent ruinés, hein, des populations entières qui sont condamnées à la sous-alimentation, voire à la famine. Bon, il y a vraiment une absurdité dans le système. Et pour terminer sur ce premier volet, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que il faut contester la dictature capitaliste, y compris dans le domaine de l'agroalimentaire. Hein, nous, on défend d'aller jusqu'à l'expropriation des banques et des grands groupes industriels de l'agroalimentaire, parce que c'est eux qui mènent la danse, finalement. Et à l'échelle locale, on se rend compte que c'est le même système qui provoque finalement les mêmes catastrophes que je décrivais au niveau mondial. Alors je m'explique, hein, les producteurs agricoles ont des intérêts finalement très proches des salariés de l'agroalimentaire. Demain, nous, c'est ce qu'on pense, s'il y a des luttes sociales qui ressurgissent de nouveau, eh bien, les producteurs agricoles pourront se retrouver au coude à coude avec les salariés contre le grand patronat. Nous, c'est ce qu'on souhaite. Parce que qu'est-ce qu'on voit quand une usine ferme ? Hein, on pourrait évoquer Doubs, Gade, etc. Quand une usine ferme comme ça, c'est les salariés qui sont jetés à la porte. Et c'est aussi, par exemple, toute la filière avicole qui est touchée avec ses éleveurs.
Mais qu'est-ce qu'il faut faire concrètement ? Qu'est-ce que vous allez proposer, en quelques mots, concrètement, pour justement mettre fin à ces difficultés des agriculteurs ?
On veut que les salariés, comme les agriculteurs, aient le droit à une transparence absolue sur les comptes des entreprises. On est pour l'abolition du secret industriel et commercial. Et ça, on voudrait que dans une entreprise comme GAD, comme Doubs ou d'autres, que ce soit les salariés ou les petits producteurs qui sont sous-traitants pour eux, Lorsqu'on leur dit « Ah ben non, finalement, on fait faillite, on est obligé, on a fait un mauvais investissement au Brésil, donc finalement, on est obligé de supprimer vos emplois, vous allez être obligé de fermer votre entreprise d'élevage de poulets, et puis on les voit repartir avec leurs millions, et puis finalement, quelques années après, ils rebondissent et ils refont fortune. » Et pendant ce temps-là, l'argent public qu'ils ont touché, les bénéfices qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils en ont fait? Où est-ce qu'ils les ont placés? Dans quelle spéculation ils ont fait s'envoler tout ça? Ben nous, on dit que les producteurs agricoles, comme les salariés, devraient au minimum avoir accès à un compte public de ces entreprises. Comme ça, ils pourraient voir que finalement, bien souvent, quand on les met sur la paille, ben c'est pas justifié.
Eh bien, on vous a compris, la transparence est primordiale, justement pour les agriculteurs et pour toutes les thématiques. Pour clôturer cette interview, Jean-Louis Amis, je vous demande de choisir une chanson.
Bon, je vous le dis tout de suite, je ne suis pas un très très bon chanteur, mais vous le comprendrez, ce ne sera pas une surprise pour vous. Je vais en faire juste quelques paroles. C'est la lutte finale, groupons-nous et demain, l'international sera le genre humain. C'est la lutte finale, groupons-nous et demain, l'international sera le genre humain.
Merci Jean-Louis Amis.
C'est moi.